Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix de m'écouter en podcast, on va parler d'un média français nommé Basta. Profondément ancré à gauche, il a parmi ses convictions l'indépendance des médias. Il y a maintenant quelques années, Basta a créé un portail des médias libres, agrégeant des dizaines de sources. Début mai, pour aller plus loin dans sa démarche de rendre visible la presse indépendante, Basta a lancé une newsletter intitulée « Chez les Indés » qui chaque semaine propose une revue de presse éditorialisée attestant de la diversité et de la vitalité de ses sources. Pour discuter de tout cela, je suis allé à Montreuil, en petite couronne de Paris, rendre visite à Yvan Duroy, cofondateur et co-rédacteur en chef de Basta. Bonjour Yvan Duroy.
Bonjour.
Basta se présente comme un média d'information en ligne indépendant sur l'actualité écologique et sociale. En décembre, le site fêtera ses 15 ans. Pour vos 10 ans, votre slogan de communication était, je cite, « Basta radicalement indépendant ». Pour les 15 ans, on ne change rien.
Non, on ne change rien. On n'a pas encore réfléchi au nouveau slogan des 15 ans, mais le radicalement indépendant est toujours valable.
L'équipe de Basta, c'est une dizaine de personnes, dont 7 journalistes. C'est toujours le cas, ça aussi ?
C'est toujours le cas. On est actuellement, il y a 9 équivalents temps plein, dont 6 journalistes, plus des pigistes, une quinzaine de pigistes qui collaborent plus ou moins régulièrement au Basta et puis sans qui le journal ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.
Est-ce que votre ligne éditoriale a évolué ces dernières années ? Je pense par exemple sur l'écologie.
Non, puisque en fait c'était l'un des motifs de création de Basta, c'était remplir un vide à l'époque qu'il y avait en partie sur l'écologie, hein, en tout cas dans une majorité de médias. Donc on est toujours très actif sur le sujet avec des reportages, des analyses, et notamment avec la question de l'accélération du réchauffement climatique qu'on est en train tous de vivre sur tous les continents. Et si ça évolue, c'est un peu se questionner la question du climat, de l'écologie plus généralement est maintenant dans le débat public, comparé à il y a 10 ou 15 ans, mais ça reste quand même compliqué pour qu'il y ait derrière des grandes décisions de politique publique qui soient prises, qui puissent vraiment faire bouger les choses. Et donc là, c'est une interrogation aujourd'hui, comment faire partie des médias qui pèsent pour que ce sujet-là continue d'avancer.
Basta a la particularité d'être en accès libre, sans publicité. C'est un média qui vit donc par ses lecteurs qui sont invités à vous financer. Et il y a notamment beaucoup de petits dons parmi vos lecteurs, des dons de l'ordre de 4 à 10 euros. Ça aussi, pour vous, c'est un marqueur fort ?
C'est important, oui, on est un média à prix libre. Tous les articles sont en accès libre et puis partageables à l'envi. Il n'y a pas de publicité. Et donc, notre principale ressource, c'est le soutien libre, les contributions volontaires des lecteurs et des lectrices. Donc du coup, c'est à chacun selon ses moyens et selon ses besoins. C'est-à-dire que quelqu'un qui va beaucoup lire Basta, mais qui va avoir des petits revenus, va donner quelques euros par-ci par-là, et quelqu'un qui a des revenus plus confortables, et même s'il lit Basta que plus épisodiquement, mais pour qui l'existence de médias indépendants dans le paysage actuel est important, il va peut-être donner davantage, 10, 15, 20 euros, voire beaucoup plus pour certains.
Vous êtes-vous déjà posé la question de rendre certains articles payants et de changer un petit peu de modèle économique ? Parce qu'on sait que là, c'est compliqué de vivre sur ses seuls lecteurs en 2022.
Alors oui, c'est compliqué parce qu'il y a une relative incertitude et précarité permanente. Et puis surtout, c'est aussi un peu frustrant parce que souvent, pour lancer des grands projets, des grandes enquêtes ou des nouveaux développements, on a besoin d'argent qu'on n'a pas forcément à ce moment-là, puisque en fait, nos ressources financières principales vont rentrer au moment des campagnes de dons et de soutien volontaire des lecteurs. Et du coup, oui, enfin, on y a réfléchi. Le problème, c'est que passer en modèle payant aujourd'hui, ça veut dire avoir des investissements conséquents pour pouvoir produire un nombre d'articles suffisant chaque jour et chaque semaine pour que des gens se disent « Ah bah tiens, ça vaut le coup de s'abonner à ce média-là et de payer 3, 4, 5 euros par mois ». Après, c'est aussi un problème un peu politique dans le sens d'accessibilité. C'est-à-dire que passer en payant, c'est-à-dire fermer les accès au site. Et du coup, le but de Basta, c'était quand même de rendre disponible un certain nombre d'informations, de ressources, d'interviews, partageables et diffusables pour tout le monde. Des gens qui vont découvrir, qui vont même découvrir une thématique. On parlait de l'écologie tout à l'heure, peut-être ça a permis à plein de gens qui ne se seraient pas forcément abonnés à un journal spécifiquement écolo de découvrir ces sujets-là. Et du coup, passer en mode payant fermé, ça pose aussi des grandes questions et ce n'est pas notre souhait aujourd'hui.
Et puis il y a aussi une dimension technique, technologique, d'installer ce qu'on appelle un paywall et donc de pouvoir analyser les chiffres pour pouvoir grandir comme cela.
Non, tout à fait. Et puis ça veut dire, enfin, on a vu pour un des exemples les plus réussis aujourd'hui de médias payants en ligne, c'est Mediapart, mais qui a mis quand même, malgré des investissements conséquents au départ, 4 ou 5 années à devenir rentable, enfin à pouvoir en vivre sans s'endetter. Nous, on est beaucoup plus petits, donc c'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Et puis aussi, on n'a pas envie de fermer. Les archives, les articles, l'idée c'est vraiment de rester ouvert. Après, à voir si le modèle prix libre qui commence à se développer et de contributions volontaires qui commence à prendre pied en France depuis quelques années par rapport au modèle anglo-saxon où il est beaucoup plus développé, voir si ça commence à s'installer culturellement et si on arrive à dégager les ressources suffisantes et nécessaires pour, un, déjà continuer notre activité et puis deux, voir la développer, la multiplier.
Je le disais en introduction, Basta a lancé un portail des médias libres, c'était en 2016, comportant quelques 130 sources fiables. Qu'est-ce qui a présidé au lancement de ce portail? C'était l'idée que l'union fait la force?
Oui, l'idée, c'est face à la concentration des médias français entre les mains de grands groupes industriels, qui s'est aussi accéléré depuis 10-15 ans. Avec l'exemple récent de Bolloré et de toutes ces acquisitions, il y a depuis une décennie une floraison de médias indépendants, alors sur les questions sociales, sur les questions écologiques, sur les questions internationales, avec une richesse et une diversité d'articles, hein, qui sont souvent sérieux, souvent rigoureux, souvent sourcés, enfin un vrai métier de journaliste, et qu'on avait envie de rendre visible, hein, on avait envie de donner une visibilité à cette diversité, à cette richesse, enfin d'y contribuer, hein, parce qu'il n'y a pas que nous.
Et c'est-à-dire que le grand public ne se rend pas compte de cette diversité, ne les voit pas ces médias?
Je pense que vu que quelques-uns comme Basta se sont installés quand même dans la durée, ces médias sont vus, parce que sinon, si on était totalement invisible, on ne pourrait pas continuer à vivre, hein, et à fonctionner et à informer. Mais je pense que, enfin déjà, il y a la diversité, c'est à la fois une richesse, mais en même temps, c'est un risque de dispersion et d'invisibilité, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez 10 sites intéressants qui vont parler d'écologie, un lecteur va pas aller, ou une lectrice va pas aller checker les 10 sites pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a qui l'intéresse. Les gens ont pas forcément le temps. Donc l'idée, c'était de produire un outil qui fasse une espèce de revue de presse de l'ensemble de ces médias-là, sur les questions écologiques, mais aussi sociales, sur les enquêtes, sur les reportages de terrain, etc., sur l'international aussi. Et puis après, à chacun, chacune reçoit une synthèse de ce qui nous a semblé important à mettre en valeur, et puis au lecteur d'aller cliquer sur et lire l'article qui l'intéresse. Alors, il y a à la fois des médias en accès libre, hein, et à la fois des médias aussi payants, donc après à voir si ça bonne ou pas. Mais...
Alors je vais en citer quelques-uns justement, et je vais notamment citer ceux dont j'ai reçu des membres de rédaction, des représentants ces dernières années dans l'atelier des médias. Blast, Inkifada, Disclose, Getty News, La Revue Dessinée, Les Jours, Médiacité, Mediapart, Reporter, les revues Far West et 21, Street Press, The Conversation ou encore Vert.echo. Mais vous me disiez que certaines des sources que vous aviez ajoutées il y a 5 ans ont maintenant disparu. Il y a des médias qui meurent dans tout cela.
Oui, il y a des médias qui sont créés soit en accès libre, soit sur un modèle payant, enfin qui ont tenté le coup et puis qui ont tenu 2, 3, 4 ans et qui ont disparu entre 2017 et maintenant. C'est un peu la vie du. C'est un peu un des problèmes de cette. Comment dire, la face sombre de cette richesse qu'on décrivait avant, c'est-à-dire que effectivement dans cette explosion, floraison de médias indépendants, il y en a qui n'arrivent pas à trouver leur place ou leur lectorat ou qui vont faire aussi doublon avec des choses qui existent déjà, et c'est une vraie question aussi à se poser, je pense aussi à se poser tous ensemble entre médias indépendants, de voir quelle est la spécificité de chacun, quelle est notre complémentarité éventuelle, là éventuellement où on pourrait peut-être mutualiser des choses ou réaliser des enquêtes ou des sujets ensemble. Voilà, nous avec cette newsletter chez les Indés et le portail des médias libres, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice pour montrer on n'est pas dans, enfin, on n'a pas envie de reproduire la concurrence, la compétition entre toutes et tous à notre niveau. Essayons de se donner une visibilité réciproque, voire de travailler ensemble et de construire des choses ensemble pour l'avenir.
Cette newsletter, donc chez les Indés, vous l'avez lancée le 6 mai dernier, soit après le second tour de l'élection présidentielle, qui a vu donc arriver Emmanuel Macron, qui rempile pour un nouveau quinquennat, et Marine Le Pen au second tour. L'idée, c'était quoi? Vous avez ressenti l'urgence de lancer cette newsletter à ce moment-là, parce que, eh bien, justement, on avait cette situation de fait?
Oui, alors le portail des médias libres qui précède la newsletter avait été lancé après les régionales en 2015, qui avait vu aussi une percée assez forte du Front National à l'époque, à cette élection-là. C'est aussi une réponse à la manière dont la campagne a pu se dérouler, sur le fait qu'une poignée de chaînes info ou des fois de grands médias vont monopoliser certains débats ou simplifier, voire caricaturer certains débats ou certaines propositions. Pas tous, hein, il y a beaucoup de journalistes qui font très bien leur travail ou en tout cas qui essayent de bien le faire dans les grandes rédaction.
Il faut le dire.
Mais dans l'audiovisuel, en tout cas privé, et notamment les chaînes qui appartiennent à des grands groupes industriels, souvent c'est quand même les débats sont assez caricaturés. Et l'idée, c'était de montrer que voilà, il y a d'autres manières de s'informer. On n'est pas obligé de passer 24 heures à regarder telle ou telle chaîne info et tel ou tel plateau de débat, et qu'il y a plein de choses, plein d'interviews, plein de sujets d'analyse qui existent ailleurs. Il faut juste prendre un petit peu le temps de lire. Et l'idée de chez les Indés, c'était ça, c'était de faciliter pour le grand public la découverte de ces titres-là et puis d'aller piocher les articles et les sujets qui leur plaisent.
Et vous avez choisi pour ça la newsletter, qui est presque vieux comme Internet, j'oserais dire, mais qui est un moyen direct de toucher le public sans passer par les réseaux sociaux et les fameux algorithmes dont on parle régulièrement dans l'atelier des médias.
Absolument, parce que c'est un des problèmes de la presse en accès libre aujourd'hui, c'est qu'il y a 10 ans, elle bénéficiait des réseaux sociaux, et en particulier de Facebook, qui était devenu un espèce de grand kiosque articles à journaux, où chacun pouvait aller piocher ce qui l'intéressait. Aujourd'hui, les algorithmes ont été réformés, donnent de moins en moins de visibilité aux médias et aux articles de presse, et en particulier aux médias indépendants. Donc nous, on a une très forte communauté Facebook, puisqu'on a plus de 230 000 abonnés à notre page Facebook, mais on s'aperçoit que depuis 2-3 ans, il y a de moins en moins de gens parmi ces abonnés qui voient les productions de Basta, donc qui ne vont pas forcément avoir le réflexe toutes les semaines d'aller voir ce qu'il y a de nouveau sur le site. Et c'est un vrai problème. Et du coup, le fait de s'adresser directement à chacun et à chacune via le mail et l'envoi d'une newsletter, ça permet de toucher directement les gens sans passer par un robot, un algorithme qui va sélectionner ou pas pour vous ce qui va juger bon sur des critères assez opaques, ce que vous pouvez lire ou pas, ou ce qui va potentiellement vous intéresser ou pas, selon encore des critères qui sont totalement flous et opaques, et on ne sait pas ce qui mélange marketing, commercial, collecte de données. Donc c'est aussi un outil pour pallier à cette évolution des algorithmes qui rend invisible, selon nous, ou quasi invisible, pas mal de travaux de qualité.
Cette newsletter, elle n'est pas automatisée, elle est éditorialisée, c'est un journaliste qui, chaque vendredi, la rédige, puis l'envoie aux abonnés.
Oui, en l'occurrence, c'est principalement une journaliste, Rachel Kneibel, qui chaque semaine va, à partir de la sélection, enfin du portail des médias libres et de toutes les sources qu'on a référencées de leur production, va faire une sélection humaine, non algorithmique, des sujets qu'elle va trouver intéressants et en tout cas intéressants à montrer, à exposer auprès des abonnés. Et puis on va essayer progressivement de se relayer pour la rédaction de cette newsletter, que ce soit plusieurs personnes qui se relayent, y contribuent, pour aussi montrer différents points de vue, différentes approches. Certains vont être plus sensibles à tel ou tel sujet, à telle ou telle question internationale. Et voilà, pour proposer une diversité aux gens qui s'abonnent à la newsletter.
Et aussi, petite coquetterie, qui n'est pas tant que ça une coquetterie d'ailleurs, c'est le fait que cette newsletter se veut très légère et qu'elle s'adapte aussi au mode sombre que les gens peuvent avoir mis dans leur messagerie, c'est-à-dire d'avoir plutôt un fond d'écran noir plutôt qu'un fond d'écran blanc. Pourquoi ? Eh bien, pour que cela consomme moins d'énergie. Là aussi, on est dans une des convictions de Basta, un journaliste qui se veut écolo et qui se veut aussi bas carbone.
Oui, absolument. Ça, on a des développeurs et des designers qui sont sensibles à cette question-là. Alors, il y a la question de la consommation d'énergie que génèrent les mails. Mais il y a aussi la question de l'accessibilité et du site et de la newsletter aux malvoyants, aux personnes qui ont du mal à distinguer les couleurs et tout ça. Donc on essaye d'être le plus accessible possible et de prendre en compte les gens qui ont des difficultés, soit y compris de connexion numérique. Hein. Tout le monde n'a pas un méga débit de connexion, et d'où l'intérêt d'avoir cette newsletter allégée, économe en énergie et accessible à tout le monde.
Vous écoutez l'atelier des médias de RFI, mon invité est Yvan Duroy, cofondateur du média français Basta. Yvan Duroy, donc vous souhaitez maintenant mettre à jour ce portail des médias libres. Quelles sont les évolutions auxquelles vous réfléchissez ?
Alors c'est en chantier, parce qu'on est en train de réfléchir à nos, à nos évolutions possibles. L'idée, c'est une des idées, enfin bon, de réorganiser les rubriques, les thématiques, etc. Et puis le design, bien sûr. Mais une des idées, c'est aussi de mettre en valeur la presse indépendante ailleurs, francophone déjà, mais ailleurs qu'en France, où il y a déjà un peu de presse belge ou suisse dedans, mais notamment s'intéresser aux médias émergents francophones indépendants en Afrique ou ailleurs.
Il y a notamment Afrique 21 qui est dans votre sélection.
Tout à fait déjà, au Canada, etc. Et aussi des médias indépendants, ce ne serait pas en français, qui serait en portugais, en espagnol, en anglais. Enfin, il y a déjà une rubrique pour les médias, un certain nombre de médias anglo-saxons indépendants, donc avec des articles en anglais. Et l'idée, c'est d'élargir ça et de proposer, quitte à aussi à voir comment on pourrait traduire certains articles intéressants. Enfin, quand il y a une actualité particulière aux États-Unis ou en Inde, on peut très bien traduire un article intéressant fait par des journalistes locaux plutôt que de demander à un correspondant ou à quelqu'un ici de faire une synthèse de ce qui a été produit sur le sujet. Voilà, donc ça fait partie des réflexions en cours.
Yvan Duroy, nous avons cette conversation dans les locaux de l'association Intermédia, qui est dite BASTA, mais aussi l'Observatoire des multinationales, que l'on trouve à l'adresse multinationale au pluriel .org, dont vous êtes au passage aussi le cofondateur. Tout ceci est on ne peut plus cohérent, alors qu'en France, comme vous le disiez tout à l'heure, une majorité de journaux, télévision et radio appartiennent à quelques milliardaires et que ça s'accentue d'année en année.
Oui, parce qu'on observe, j'imagine que vous en parlez régulièrement sur RFI du mouvement de concentration, mais ce qui devient un vrai problème, parce que en soi qu'il y ait une pluralité de médias qui appartiennent à la fois à des gens qui ont les moyens d'investir dans ces médias-là, mais aussi à des groupes créés pour éditer des médias, ou pourquoi pas, mais là on a quand même 10 grandes fortunes en gros, ou 10 industriels qui possèdent quand même une grande partie et de la presse quotidienne et aussi de la presse audiovisuelle, donc c'est un vrai problème. Je pense que d'ailleurs que l'émergence des médias indépendants depuis 10 ans et leur multiplication répond à ce phénomène-là, et puis leur succès montre aussi que les citoyens et les citoyennes ont envie d'une vraie pluralité, d'une vraie diversité de sources d'information. Et voilà, donc à voir après si la question c'est est-ce que ces médias indépendants vont acquérir suffisamment d'ampleur, vont être suffisamment soutenus pour pouvoir à un moment donné avoir une audience aussi importante qu'une chaîne télé d'information en continu ou qu'un grand magazine qui appartient à Bernard Arnault, à François Pinault ou à Vincent Bolloré.
J'invite les auditeurs de l'Atelier des médias à réécouter l'émission que nous avions consacrée il y a quelques semaines à Media Crash, où nous recevions Valentine Auberti pour parler de cette question de la concentration des médias. En 2013, Basta Mag avait été l'objet d'une procédure Bayon, on peut le dire, de la part du groupe Bolloré pour la publication d'un article dont le titre était « Bolloré, Crédit Agricole, Louis Dreyfus, ces groupes français champions de l'accaparement des terres ». C'était allé jusqu'à la Cour de cassation en 2018, vous aviez eu gain de cause. Ce genre de procédure Bayon, c'est aussi quelque chose qui a tendance à se multiplier et qui fait du mal aux médias indépendants.
Oui, alors on avait eu cette première procédure en diffamation, donc on avait gagné en première instance, on a gagné Bolloré a fait appel, on a gagné en appel, l'avocat de Bolloré était en cassation, on a gagné en cassation, et puis on avait une deuxième plainte du groupe Bolloré aussi, donc on a gagné en première instance, ils ont été en appel, et puis deux jours avant l'appel, ils sont retirés en disant on abandonne les poursuites. Alors, enfin tant mieux pour nous, parce que ça crédibilise notre travail, mais en même temps, ça pour des médias avec des petit budget comme le nôtre, ça coûte cher parce que c'est des frais d'avocat, c'est des frais d'huissier, c'est du temps de travail pour préparer les audiences, pour préparer le dossier en défense, pour montrer que nos articles sont étayés avec toutes les sources qu'il faut, les témoignages, etc. Et on a eu une deuxième plainte, alors là c'était pas Bolloré, c'était aussi un breton, un homme d'affaires qui s'appelle Jean Chérital et qui possède un groupe d'agroalimentaire en Bretagne qui avait porté plainte suite à un article d'Inès Leroux, une pigiste qui travaille beaucoup sur les questions d'agroalimentaire. Pareil, il s'était retiré trois jours avant, mais c'est des frais engagés, une défense à préparer. Et bon, là, pour l'instant, on n'a aucune procédure en cours, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est une vraie menace pour des médias indépendants qui n'hésitent pas à sortir des enquêtes gênantes sur telle ou telle activité ou business. C'est toujours une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes et qui coûte de l'argent et qui entrave vraiment notre travail.
Avec votre œil averti via le portail des médias libres, y a-t-il des initiatives médias qui ont attiré votre attention en France ces derniers mois ou ces dernières années?
Qu'est-ce que vous entendez par initiative média?
Quelques nouveaux médias qui se sont lancés et qui méritent clairement le détour.
Bah, il y en a quelques-uns. Ceux que je ne vais pas citer vont me détester. Sur la question de l'écologie, je pense qu'il y a une émergence, que ce soit historiquement, à Bastard, historiquement, on parlait d'écologie, mais il y avait au même moment, en gros, il y avait Reporter qui avait émergé aussi. Là, l'apparition de nouveaux sites, ça vient renouveler un peu la question des médias centrés anglais sur l'écologie, comme vers le média. Ce qui est bien dans les médias indépendants, c'est qu'il y a tous les formats possibles. Vous pouvez écouter les podcasts avec Radio Parleur. C'est donc une association, pareil, qui édite des podcasts à la fois d'informations et d'émissions, avec qui on a vu des partenariats. Vous pouvez regarder des émissions de télé avec Blast notamment, ou des reportages. Il y a Mediapart qui maintenant n'est plus
n'est plus un petit média,
s'est installé durablement et produit des enquêtes de qualité sur un certain nombre de sujets, notamment la question des violences sexistes et sexuelles. Donc il y a Les Jours aussi, si vous avez envie de vous plonger dans un sujet, de lire des formats plus longs et de prendre votre temps, donc qui est payant mais qui est intéressant aussi. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Il y a aussi plein de petits médias, on va dire locaux, que ce soit des déclinaisons locales de l'ancien site Rue 89 à Bordeaux, Strasbourg ou Lyon, qui font un boulot local. Il y a Médiacité qui fait des enquêtes de fond au niveau de ville ou de région. Il y a plein de choses très intéressantes qui ont émergé depuis quelques temps. Oui.
Donc il y a quand même un bouillonnement créatif et médiatique actuellement en France, malgré tout, j'ai envie de dire.
Oui, absolument. Et puis j'oubliais aussi un média comme Street Press là, qui a émergé il y a quelques années et puis qui s'est plus axé sur la question des violences policières ou des violences d'extrême droite, avec aussi tout un volet culturel, d'interviews de chanteurs, de rappeurs, etc. Donc il y a vraiment une ébullition de choses assez intéressantes, je trouve, et qui ne sont pas assez visibles dans les grands médias, on va dire, classiques. Il n'y a pas assez de chroniqueurs ou de chroniqueuses qui viennent de ces médias-là. Il n'y a pas... Je trouve qu'ils sont... Donc, des journalistes de Mediapart vont être invités au gré des grandes enquêtes ou des scandales qui vont sortir ici ou là pour les raconter. Mais je trouve que par rapport à un certain ronronnement de la presse audiovisuelle, je trouve que ces journalistes ne sont pas suffisamment présents pour venir renouveler un peu les points de vue et les angles... les regards sur l'actualité.
Et on espère que votre portail des médias libres et la newsletter intitulée « Chez les Indés » permettra un petit peu d'ouvrir les yeux et le regard sur cette diversité de médias. Merci beaucoup, Yvan Duroy.
Merci à vous.
C'était Yvan Duroy, cofondateur de Basta.media. Je vous invite à vous abonner à la newsletter hebdomadaire « Chez les Indés » qui sélectionne le meilleur du portail des médias libres de Basta.
RFI.
C'est maintenant le moment de Mondoblog Audio qui chaque semaine vous fait entendre les voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Je vous propose de réécouter le 13e Mondoblog Audio signé de la malgache Sergia Fenosoa. Sur son blog Un bonjour de Mada, elle a raconté comment elle a partagé sa passion du blogging avec des lycéens de la Grande Île.
Récemment, j'ai eu l'opportunité de former des lycéens au blogging. L'objectif, inciter les jeunes à s'exprimer via les médias numériques, leur apprendre à savoir bien utiliser les nouveaux outils liés à l'Internet pour qu'ils s'en emparent. Le défi était de leur montrer l'importance de prendre la parole à l'ère des médias sociaux. À leur âge, quand j'ai commencé à bloguer, j'aurais aimé avoir des mentors pour m'accompagner dans mes premiers pas. Quelqu'un pour m'expliquer comment faire de bonnes recherches sur Internet, comment construire mon blog, comment rassembler mes idées avant d'écrire, ou encore comment promouvoir mon blog sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, grâce à mon blog, je suis libre de faire entendre ma voix au-delà des frontières de mon pays et de défendre des valeurs qui me semblent importantes. Le fait de vivre dans un pays très pauvre comme Madagascar ne constitue aucunement un frein à cette liberté. Et c'est le message que je veux leur transmettre. Dans un avenir proche, j'espère voir naître toute une armée de jeunes blogueurs malgaches, de jeunes blogueurs conscients des enjeux qui affectent leur pays et désireux d'exprimer haut et fort les idées qu'ils défendent. Ils feront entendre leur voix sur des décisions qui les concernent, ils plaideront les causes qui leur tiennent à cœur, ils dénonceront ce qui les révolte et ils connecteront Madagascar au reste du monde. N'est-ce pas là toute la magie du blog ? Dans le flot de misère sociale et de laxisme politique auquel nous sommes confrontés dans notre pays, grâce à cette formation, nous donnons les moyens à la jeunesse malgache de faire bouger les lignes. Petit à petit, les jeunes opèrent un changement des mentalités. Il est plus que temps pour Madagascar d'exploiter les médias sociaux afin d'être au diapason avec le monde. Et en tant que blogueuse formatrice, je crois que la relève est assurée pour les années à venir.
mondoblog.org.
À Madagascar, nous formons aujourd'hui les blogueurs de demain. C'est un billet de la mondoblogueuse malgache Sergia Fenosoa à retrouver sur son blog Un bonjour de Mada. Plus de 100 mondoblogs audio comme celui-ci sont disponibles à l'écoute sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission réalisée par David Brocouet. Si vous aimez l'atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou encore l'appli Radio France pour ne rater aucun épisode. Mettez-nous des étoiles et postez un commentaire sur ces applications pour donner envie au plus grand nombre de rejoindre notre communauté d'auditeurices. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou un message via Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.